France Inter.
Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Le gouvernement lève encore le pied sur les zones à faible émission. Les ZFE, nouvel assouplissement à Strasbourg, Rouen et Marseille annoncé à l'instant. Le jour où l'ONU fait le bilan climatique de l'année 2023, les records de chaleur, de fonte des glaces pulvérisées, vous l'entendrez. L'actualité, c'est encore les Russes privés de défilé aux Jeux Olympiques, même sous bannière neutre. Le CIO vient de trancher. La fusion des acteurs de la sûreté nucléaire, décriée mais votée à l'Assemblée, à une voix près. Les premières interpellations après la cyberattaque contre France Travail également. Et puis la mort de Sylvain Augier, l'animateur de télévision. Faut pas rêver sur France 3, il avait 68 ans. Juste après ce journal, peut-on éradiquer le trafic de drogue après l'opération PlaceNet XXL à Marseille? Question posée au téléphone sonne 01 45 24 7000.
France Inter.
Chaque fraction de degré de réchauffement a un impact sur l'avenir de la vie sur Terre. C'est en ces termes que le chef de l'ONU a posé l'enjeu du rapport annuel de l'Organisation Météorologique Mondiale, l'OMM, rendu public aujourd'hui pour l'année 2023. Les données scientifiques qui disent l'urgence d'adapter les politiques publiques. Bonsoir Sophie Bécherel.
Bonsoir.
2023 a pulvérisé toute une série de records. Quels sont les plus inquiétants?
D'abord, la température de surface des océans. L'an dernier, à partir d'avril, ces températures, en particulier dans le Pacifique et l'Atlantique, ont atteint des niveaux sans précédent. Selon le rapport, 90% des océans de la planète ont connu, à un moment ou à un autre de l'année, une vague de chaleur. En Méditerranée, ce sont des feux de brousse sous-marins qui affectent désormais poissons et coraux. Ils se reproduisent mal, ne grandissent plus. Les pêcheurs sont touchés en cascade. Un océan chaud, c'est un océan qui se dilate. Cela conduit à la montée du niveau des mers, dont le rythme n'a jamais été si élevé, dit le rapport, d'autant plus qu'est venue s'ajouter la fonte des glaces, des Alpes et de l'Amérique de l'Ouest. Ils ont perdu 10 et 9% de leur volume. À cause de la concentration des gaz à effet de serre déjà dans l'atmosphère, non seulement 2023 a été l'année la plus chaude, avec une moyenne de 1,45 degrés au-dessus de la moyenne de l'ère pré-industrielle, mais la décennie a aussi battu des records. Ouragans, sécheresses, inondations, incendies, ces phénomènes extrêmes sont de plus en plus ravageurs, au point que 10% de la population mondiale est désormais sous-alimenté en raison de l'impact de ces perturbations sur les ressources naturelles ou cultivées.
Un constat frappant, d'où cet avertissement du chef de l'ONU, Antonio Guterres.
La planète est au bord de l'abîme. La pollution liée aux énergies fossiles provoque un chaos climatique sans précédent. Tous les indicateurs sont dans le rouge. Chaque dixième de degré en plus a des conséquences sur la vie sur Terre.
Antonio Guterres, traduit par Sébastien Donna, chaque fraction de degré compte. À quoi faut-il s'attendre, Sophie, pour l'année qui arrive?
Eh bien, pas mieux. La probabilité que 2004 batte le record de 2003 est haute, prévient l'ONU, parce que le phénomène El Niño, ce courant qui naît dans le Pacifique Ouest, a généré des températures maximales en décembre-janvier, et on sait qu'en période d'El Niño, l'impact est planétaire. D'ailleurs, l'année qui suit est en général plus chaude sur la planète. Seule solution pour stabiliser ce réchauffement, ne plus produire de gaz réchauffant en cessant le recours aux énergies fossiles. L'an passé, il est ça. Et c'est la seule bonne nouvelle de ce rapport, la capacité de production des énergies renouvelables a augmenté de 50%.
Et le dérèglement du climat modifie déjà notre quotidien, impose des actions concrètes dans les territoires. Les ZFE ont été imaginées pour réduire la pollution de l'air, les zones à faible émission, souvent modifiées, annulées ou remises en cause. Le ministre de la Transition écologique annonce encore un nouvel assouplissement ce soir. Bonsoir Sandy Dauphin, à Strasbourg, Marseille et Rouen.
Oui, il était prévu que 5 agglomérations interdisent les véhicules critères 3 au 1er janvier prochain, c'est-à-dire les diesels de plus de 13 ans et les essences de plus de 18 ans. Le ministre de la Transition écologique vient d'annoncer qu'elles ne seront plus que 2, Paris et Lyon. Les 3 autres sont dispensées, Strasbourg, Rouen et Marseille. Raison invoquée par Christophe Béchu, dans ces 3 métropoles, la qualité de l'air s'est nettement améliorée en matière de dioxyde de carbone qui sort des pots d'échappement. Ces villes ne dépasse plus régulièrement les normes. Alors, ces nouvelles mesures annoncées sur les ZFE ne signent pas la fin du dispositif. Les interdictions déjà appliquées pour les voitures classées critères 4 et 5 restent en vigueur. Mais cet assouplissement suscite la colère des associations de défense de l'environnement. La pollution de l'air tue chaque année plus de 40 000 Français et les normes en vigueur en France et en Europe sont moins strictes que les normes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé.
Explication signée Sandy Dauphin. L'adaptation comme boussole pour repenser l'aménagement du territoire aussi, tout en répondant à la crise du logement, c'est possible, disent aujourd'hui les fondations pour la nature et l'environnement et la fondation Abbé Pierre. Concilier sobriété foncière et construction, ce n'est pas forcément diviser les parcelles pour construire plus de maisons, au risque d'augmenter les conflits de voisinage, mais cela peut être surélever les bâtiments d'un ou deux étages, réhabiliter les logements vacants, c'est un rapport à retrouver sur le site de France Inter.
À 19h05, Hélène, les Russes et les Biélorusses ne seront pas à la fête des Jeux Olympiques.
Le comité olympique autorise les athlètes à concourir sous bannière neutre pendant la compétition, mais vient de trancher, bonsoir Emma Sarango.
Bonsoir.
Ils ne paraderont pas, même sous bannière neutre, à la cérémonie d'ouverture.
Et c'est une décision qui marque sans aucun doute un durcissement des relations entre Moscou et le comité international olympique, car cette cérémonie sur la Seine, avec 200 délégations, paradant sur des bateaux devant des centaines de milliers de spectateurs et des milliards de téléspectateurs, c'est évidemment un symbole que Moscou voyait d'un très bon œil. Certes, il n'y aurait pas eu de drapeau russe, mais au moins, les athlètes auraient défilé parmi et devant le monde entier. Mais le CIO en a décidé autrement, prenant en exemple le sort des sportifs de l'ex-Yougoslavie au JO de Barcelone en 92. Pas de défilé donc, mais possibilité, je cite, de vivre l'événement, promet le comité sans donner de détails. Une décision qui risque de fâcher encore Moscou, qui avait déjà parlé d'humiliation et de discrimination au moment où la bannière neutre avait été définie. Et alors que le ministre des Sports russe, la semaine dernière, avait estimé qu'il ne fallait pas boycotter ces JO de Paris, rien ne garantit ce soir que le Kremlin ne prenne pas malgré tout cette décision. En tout état de cause, même sans boycott, ils ne seront pas nombreux. Selon les projections du CIO, une trentaine de Russes, une vingtaine de Biélorusses, soit 10 fois moins qu'à Tokyo. Et s'ils remportaient des médailles, eh bien il y aurait un hymne neutre, sans parole, et leurs médailles ne seront pas comptabilisées dans le tableau final des nations.
La Russie, dans sa guerre à l'Ukraine, grignote encore un peu plus de territoire dans l'Est aujourd'hui, au lendemain de la victoire de Vladimir Poutine. Bonsoir Claude Guibal. Bonsoir. Les forces armées russes annoncent la prise d'un nouveau village dans le Donbass.
Oui, Orlivka, il y a 3 mois, l'armée ukrainienne avait filmé son drapeau planté sur un promontoire de cette petite ville. C'était une petite poussée d'espoir alors que les troupes bataillaient ferme plus au sud, dans l'enfer d'Avdiivka, lieu d'une des batailles les plus féroces de ces 2 années de guerre. Avdiivka, donc tombée il y a quelques semaines, les troupes ukrainiennes depuis avaient reculé sur leur ligne de défense, la Stochkine, puis Orlivka, donc qu'elle se voit contrainte d'abandonner à son tour. Une autre position est désormais stratégique, Tchassiviar, près de Barmout, où les forces ukrainiennes se sont massées après la perte de la ville en mai dernier. Alors sur le front de l'Est, où on sent lourdement l'échec de la contre-offensive c'est l'été dernier, l'armée ukrainienne réussit malgré tout à infliger des pertes lourdes à l'armée russe, mais les munitions manquent et les pays européens n'arrivent toujours pas à tenir la cadence pour compenser l'absence d'aide américaine bloquée par le Congrès. Volodymyr Zelensky a répété hier encore l'importance critique du déblocage de cette enveloppe, 60 milliards de dollars, essentielle pour une Ukraine en demande absolue d'obus, de munitions et de défense antiaérienne.
Et les États-Unis promettent aujourd'hui de ne pas laisser tomber l'Ukraine, cette aide de 60 milliards d'euros à 2 dollars, vous le disiez, qui est bloqué au Congrès américain. Le secrétaire américain de la Défense était en Allemagne, réunion du groupe de contact des alliés chargé de coordonner le soutien militaire au pays.
L'affichage XXL de la lutte anti-drogue.
C'est la visite surprise d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Marseille, en pleine opération de police contre les points de deal du quartier de la Castellane, opération Place Nette. C'est ainsi que le gouvernement vend le dispositif présenté à l'automne dernier pour mettre un coup d'arrêt au trafic de drogue. Place Nette XXL dans le cas de Marseille, qui souffre particulièrement du narco-banditisme. 98 interpellations entre hier et aujourd'hui, 71 gardes à vue, 300 grammes de cocaïne et 8 kilos de cannabis saisis. Maigre bilan et scepticisme dans le quartier. Le reportage est signé Mathilde Vinceneux.
Dans la cité de la Castellane, les chaises des guetteurs sont vides. Les CRS quadrillent la zone entre un labyrinthe de tours. Ils sont là depuis hier et sont restés tard dans la nuit.
On n'a même pas dormi.
Cet habitant raconte qu'un hélicoptère a survolé la cité toute la soirée. Mais cette énième opération policière ne changera rien, assure Louis. Il scrute le président entouré par les caméras.
Mais bien sûr, c'est du cinéma. Qu'est-ce qui va changer? Va rien changer. Ça a été toujours comme ça. Tout changer, c'est pas vrai. Tout ça, on n'y croit plus. Ça y est, c'est fini. Tout ça. On a abandonné de la société. On est abandonné.
Beaucoup d'habitants refusent de parler des trafics au micro, mais racontent les points de deal aux quatre coins de la cité, les jeunes armés, les cris des guetteurs. On cohabite, explique Leïla. Elle aimerait que les trafics disparaissent, mais elle non plus ne croit plus les promesses des politiques qui se sont succédé dans la cité.
Parce qu'à chaque fois, c'est la même chanson. C'est on nous fait du remue-ménage et après, on ne voit plus personne. Voilà, il faudrait qu'on ait la police tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, j'en veux aussi aux gens qui viennent acheter. Parce qu'on blâme les gens qui trafiquent, mais si les gens ne viendraient pas acheter, en général que des gens aisés.
Des consommateurs qui forment habituellement de longues files d'attente dans la cité de la Castellane, devant des points de deal qui sont aujourd'hui à l'arrêt.
Le chef de l'État qui était venu dire qu'il ne voulait pas de discours de défaite sur le sujet, il souhaite une dizaine d'opérations XXL de ce type sur tout le territoire ces prochaines semaines. Plus de 900 policiers et gendarmes étaient mobilisés hier et aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône, moins nombreux dans la Vienne, mais c'était aujourd'hui la première opération du genre en milieu rural, anti-stup, anti-cambriolage, 25 gendarmes et un hélicoptère mobilisés dans le secteur de Châtellerault. Ça s'est donc joué à une voix à l'Assemblée nationale. Les députés ont approuvé finalement la fusion des deux acteurs de la sûreté nucléaire, l'ASN, le gendarme des centrales, et l'IRSN, l'expert technique. Après plusieurs revers du gouvernement, vote très serré ce soir, Marie Mollet au Palais Bourbon.
Un projet de loi adopté d'un seul cheveu.
Pour 260, contre 259.
Le ministre Auban, Roland Lescure, préfère ironiser.
C'est ce qui s'appelle un vote sans équivoque.
Le gouvernement peut souffler après ce douloureux parcours législatif démarré il y a plus d'un an. La majorité défend une fusion utile pour la relance de la filière nucléaire. Le député Renaissance, Antoine Armand.
Si on a une seule institution plutôt que deux, un seul centre de crise plutôt que deux, un seul service, simplification, fluidification, plus d'efficacité pour qu'on ait davantage de moyens au service de la relance, de l'instruction des dossiers.
Mais pourtant, la gauche, elle, s'oppose à cette fusion depuis des mois et dénonce un mélange des genres entre expertise indépendante d'un côté et décision de l'autre. Le député Sébastien Jumel, communiste, favorable pourtant au nucléaire.
On a la chance d'avoir le modèle de sûreté et de sécurité le plus fiable au monde. La question simple, c'est pourquoi remettre en cause un système qui est reconnu par tous, qui fonctionne bien. Au mieux, ça sera inefficace. Au pire, ça sera plus compliqué demain qu'aujourd'hui.
Quant au Rassemblement national, le groupe n'aura cessé de zigzaguer sur ce dossier, contre en commission, puis pour il y a une semaine en séance, puis contre à nouveau aujourd'hui lors du vote définitif. La ministre Sylvie Retailleau les a traités d'héritiers de Pétain tout à l'heure lors des questions au gouvernement. C'est ce qui les a décidés à changer d'avis, nous dit-on, dans l'état-major du parti.
Marie Mollet à l'Assemblée nationale où les députés votent aussi ce soir la proposition de loi pour le bien vieillir. Loin de suffire aux parlementaires, 8 chefs de groupe de gauche et de droite réclament un calendrier précis au Premier ministre pour une loi majeure sur le grand âge. Pour aller plus loin que les mesures d'aujourd'hui, la création d'une carte professionnelle pour faciliter la reconnaissance du travail des intervenants à domicile, l'inscription du droit de visite dans les EHPAD et l'autorisation des animaux de compagnie. Pour l'instant, ce n'est pas un droit opposable, compliqué à organiser pour un personnel débordé. C'est pourtant précieux pour les résidents. Constatons en Seine-et-Marne, dans l'établissement Les Chênes Rouges de Bouron-Marlotte, Adrien Serrière y est allé.
Dans la chambre où ils ont emménagé il y a un an, Joël et la chatte Gribouille reçoivent.
Vous êtes bien installés là ?
Chacun sur son fauteuil.
Là, cette nuit, elle a dormi toute la nuit sur moi. Elle était sur le côté là, et puis elle s'est mise le long. Et ce matin, quand je me suis réveillé, elle était là.
Une présence qui fait du bien au moral de Joël. Son épouse Claudine l'observe au quotidien.
Oh ben lui, c'est vraiment sa chatte. Hein. Ça a toujours été...
C'est fusionnel presque. Hein.
Inimaginable donc pour le couple de se séparer de Gribouille lorsqu'il a fallu trouver un établissement médicalisé.
On a évidemment un parc qui s'y prête.
Géraldine Berthelot, la directrice de l'EHPAD.
Quand on arrive en EHPAD, on fait le deuil de sa vie d'avant. Mais on se rend compte que ça les soulage de savoir qu'on peut accueillir le chat ou le petit chien, ça permet de garder le lien avec le domicile, garder le lien avec ses souvenirs, avec sa vie d'avant, et ça facilite quand même grandement l'intégration.
Ici, les animaux font d'ailleurs partie de la vie de l'ensemble des résidents, puisque l'établissement possède ses propres chats, qui naviguent entre les chambres, les couloirs et le parc, où l'on retrouve aussi deux ânes et des chèvres.
Et en cas de vote positif du Sénat, l'accueil des animaux de compagnie en EHPAD pourrait être généralisé avant l'été. Reste à en définir par décret quels animaux seront autorisés ou interdits.
L'enquête est allée vite après la cyberattaque contre France Travail.
Révélée la semaine dernière, le 13 mars, 43 millions de Français potentiellement concernés, inscrits ou ayant été inscrits ces 20 dernières années à Pôle emploi, ça fait du monde. Bonsoir Sarah Guibaudot.
Bonsoir.
La procureure de Paris annonce que 3 suspects ont été interpellés.
Oui, France Travail avait déjà mis en évidence que pour entrer dans son système d'information, les pirates avaient usurpé l'identité de conseiller Cap Emploi, l'organisme qui s'occupe de l'emploi des personnes handicapées. À partir de là, l'enquête a pu remonter jusqu'à ces 3 hommes âgés de 21, 22 et 23 ans. Ils ont été rapidement interpellés dimanche pour limiter le risque de fraude à partir des données obtenues, potentiellement les noms, date et lieu de naissance, adresse, mail, numéro de téléphone et identifiant France Travail. Les perquisitions au domicile de 2 des suspects confirment qu'ils se livraient à des escroqueries de type phishing. Les conseils de prudence, on le rappelle, sont de refuser toute demande d'argent ou d'accès à vos coordonnées bancaires, même si la personne se présente comme un agent France Travail qui souhaiterait mettre à jour ou confirmer vos informations. Les 3 suspects sont présentés à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen, notamment pour escroquerie en bande organisée. Le parquet de Paris a demandé leur placement en détention provisoire.
Sarah Guibaudot, à Rome, une image choc aujourd'hui. Un millier de cercueils ont été alignés sur l'une des plus grandes places du centre de la ville pour sensibiliser politique et grand public au drame des accidents mortels du travail. 1041 victimes l'année dernière. Il y en a près de 700 chaque année en France. À Mayotte, c'est un cas de choléra qui inquiète en provenance des Comores où l'épidémie sévit depuis le début de l'année. Un plan de riposte avait d'ailleurs été imaginé par l'Agence régionale de santé qui envisageait cette possibilité, son directeur général, Olivier Braic.
Dans le cadre de la crise de l'eau, c'était un risque qu'on avait dans le viseur. Le maître mot pour éviter toute diffusion de la bactérie, c'est la réactivité. Dès lors qu'on a eu la détection et la confirmation donc de ce premier cas confirmé à Mayotte, on avait 2 objectifs. Un, d'envoyer des équipes sur le terrain, dans les lieux de vie de cette personne pour, premièrement, identifier les personnes contacts et casser les chaînes de contamination et de transmission, et puis désinfecter la zone avec des équipes qui ont été entraînées et formées au préalable. Et en parallèle, un circuit de prise en charge sécurisé au sein de l'hôpital de Mayotte. Et ça aussi, c'est un circuit qu'on avait travaillé depuis de longues semaines avec la direction et les soignants de l'hôpital.
Le directeur général de l'Agence régionale de santé de Mayotte avec Laurent Kramer. Cette reconversion inattendue pour l'ancien porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, neurologue de formation, a choisi de se former à la chirurgie esthétique qui ne doit pas être dénigrée, dit-il, citant les cicatrices sur le visage, la calvitie précoce qui peut faire souffrir certains Français. Il exercera dans une clinique des Champs-Élysées un jour par semaine en plus de son travail de député. Il fut un visage incontournable du petit écran, incarnation des émissions célèbres, la carte au trésor, faut pas rêver sur France 3. Sylvain Augier est mort aujourd'hui à 68 ans, diagnostiqué bipolaire dans les années 90. Il avait levé le voile sur la maladie dans un ouvrage sorti à l'automne dernier. Bonsoir Alexis de Meyer.
Bonsoir Hélène.
Et il avait commencé sa carrière sur France Inter.
Oui, c'était en 1979 en tant que reporter. Sylvain Augier présente ensuite sur notre chaîne plusieurs émissions jusqu'au milieu des années 90, notamment Chic Planète et On ne vit que deux fois à l'heure du déjeuner après l'arrêt de l'émission de Laurent Ruquier, Rien à cirer. Mais c'est en effet à la télévision que ce cousin de l'homme d'affaires Mathieu Pigas va prendre son envol avec l'émission de voyage Faut pas rêver sur France 3 et le jeu La carte au trésor. Voilà, toute notre jeunesse, Hélène, avec ces candidats qui parcouraient les plus beaux sites du patrimoine français en grimpant dans des hélicoptères. Mais en 2005, Sylvain Augier est écarté de la présentation de la carte au trésor et c'est un coup d'arrêt pour sa carrière. Dépression, tentative de suicide et un long combat contre sa bipolarité qu'il évoquait récemment sur le site internet du Figaro.
Avant, ça s'appelait, à l'époque de mon père, qui me l'a transmis, la psychose maniaco-dépressive. Et à l'époque de son père à lui, mon grand-père, c'était la neurasthénie.
Je reviens de loin, c'est le joli titre du livre testament que ce grand voyageur avait publié l'an dernier et dans lequel il évoquait sa longue traversée du désert.
Sylvain Augier qui est mort samedi à l'âge de 68 ans, c'est sa fille qui l'annonce ce soir.
Merci beaucoup Hélène Philippe pour le journal. Dans un instant, c'est le téléphone sonne, on va parler de trafic de drogue et se demander comment les éradiquer. Un œil sur le ciel juste avant.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur euromaster.fr.
Élodie Calac, journée ensoleillée demain, mais quelques orages à l'ouest.
Oui, sur une grande partie est, jusqu'au nord de la Seine, au bassin parisien, au massif central et à l'Occitanie, le soleil s'imposera vite, parfois un petit peu voilé. Quelques grisailles vers la Lorraine, l'Alsace et le Val-de-Saône le matin. Quelques nuages bas également vers la Côte d'Azur et la Corse. Et puis un ciel plus nuageux sur le Languedoc-Roussillon toute la journée, avec un vent de sud-est marqué. Et puis en allant vers l'ouest, là ce sera un ciel bien voilé. De la Gironde à la Vendée, quelques ondées et un coup de tonnerre dès le matin. L'après-midi, ces quelques averses orageuses gagneront le Limousin, le centre-Val de Loire et le sud de la Bretagne. Et une autre dégradation orageuse plus marquée gagnera l'ouest des Pyrénées dès la fin de journée, puis l'Aquitaine dans la nuit avec du vent jusqu'à 80 à 90 km à l'heure.
Et il fera très doux.
5 à 10 degrés le matin jusqu'à 13 sur le sud-ouest. L'après-midi, pas moins de 16 degrés à Cherbourg, 19 à Lille, Rennes, Nancy et Marseille, 20 degrés à Paris, Mulhouse, La Rochelle et Toulouse, 23 à Grenoble, à Clermont-Ferrand, à Bordeaux également, et 24 à Tarbes.
Élodie Calac de Météo France.